Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour et bienvenue sur RMC, RMC Story. C'est le coup d'envoi des GG, c'est le coup d'envoi des Grandes Gueules. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi comme tous les jours. On vous attend au 32-16, bien sûr, pour discuter, débattre librement. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui, tu es assis à côté de Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée.
C'est un honneur, c'est un honneur.
Bonjour Monsieur Mourad.
Triple champion d'Europe, je vous rappelle.
Oui, c'est vrai, on a tendance à l'oublier. C'est loin. Le premier titre, c'était en quelle année?
2013.
Ça, oui, ça commence à dater. Monsieur Bruno Poncet est des nôtres, l'ami Bruno qui est cheminot. Bonjour mon cher Bruno.
Bonjour à toutes, j'aurais une pensée pour les Iraniennes et les Iraniens qui se battent aujourd'hui pour leur liberté. Et j'ai aussi une pensée pour mes amis Hélène et Percy qui se marient. C'est la plus belle histoire d'amour que je connaisse.
Ah bon,
tu ne peux pas en dire plus parce que tu me l'as raconté cette histoire en coulisses. Elle est dingue, non, tu veux pas en dire plus?
Ouais, je peux juste dire que c'est deux survivants du Bataclan et qui ont une histoire extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Après, ils ont toujours voulu rester discrets, mais c'est une belle histoire.
Et puis, regardez qui nous avons de retour dans les GG aujourd'hui. On est tellement content de la retrouver. Zora Bitan est avec nous aujourd'hui, l'ami Zora. Bonjour Zora.
Bonjour à tous. Bah, je suis très heureuse de revenir. Ça me manque tellement les GG quand je ne viens pas. Et du coup, voilà, je viens plutôt en forme. Bon, j'ai gagné quelques batailles. Je n'ai pas encore gagné la guerre, mais c'est en bon
chemin. Tu as eu deux cancers.
Oui. Deux cancers, un qui est en rémission et l'autre qui est quand même encore actif, sous traitement. Et puis de venir, bah voilà, ça me permet de mettre un pied dans la réalité, ça me fait du bien. En fait.
Et puis on parlera tout à l'heure, Zora, on dira quelques mots quand même de ce livre. Pour ceux qui veulent te connaître, Zora Bitan, une grande gueule made in France que tu as écrit avec Liliane Messica. On en parlera parce que tu te livres comme tu t'es jamais livré aussi dans ce bouquin. Tu permets deux secondes que je demande à Anaïs, notre productrice, de venir parce que là, il y a quand même du laisser-aller dans l'équipe.
Oui, on
c'est vendredi.
L'émission.
D'habitude, on a toujours une feuille sur laquelle on a
un
les
conducteur.
Sujets. Petit conducteur, voilà. le pense-bête. Ah bah, on vous félicite pas aujourd'hui, merci. Vendredi.
Hein. L'imprimante était déjà en week-end, c'est
ouais,
ça?
Oui, l'imprimante, Alexandra Bichouap, mais elle est corse, Alexandra, si tu veux. Donc,
oui, bah, moi, je dis rien. De temps en temps, peut-être un peu. Je ne dis rien.
Un peu plus lent au démarrage. On rigole, bien sûr. Enfin bon, j'ai l'impression que le deuxième degré, ça a disparu dans ce pays depuis.
Ah ça,
depuis
et surtout sur les réseaux sociaux.
Oui, surtout, oui.
Que se passe-t-il dans les GG, dans les Grandes Gueules? On va parler chauffage, on va parler de rallumer les chaudières, rallumer les radiateurs. Bref, premier jour de l'automne aujourd'hui, les températures ont baissé. Seulement on est tiraillé entre avoir un petit peu plus chaud et attention à la facture énergétique. Allez-vous rallumer le chauffage? 32-16 pour en parler avec les Grandes Gueules.
RMC, les Grandes Gueules.
Effectivement, on se posait la question, surtout le soir en fait, en se couchant.
C'est une vraie question, mais on peut pas le rallumer tout de suite. C'est clairement trop tôt, clairement trop cher. Et...
On s'est posé la question, effectivement, mais on a mis le confort avant tout. Après, on a des choses qui sont mises en place dans la maison, un thermostat avec des heures de déclenchement, etc.
Allumer le feu risque de faire flamber la facture énergétique.
C'est un
aussi.
Choix cornélien. On l'a jamais eu, ce choix, parce que c'est vrai que là, allumer le feu, ça veut dire que la facture va exploser. Mais en même temps, les températures, on l'a tous constaté, commencent à baisser. Ça va d'ailleurs durer ce week-end. Hein. Il va pas faire très très chaud ce week-end. Alors, est-ce qu'on doit rallumer le feu ou tenir? Mettre des pulls et suivre d'ailleurs le message du gouvernement qui nous appelle à la sobriété énergétique. Vous savez que par exemple qu'à Paris, on est en train de réfléchir à retarder le chauffage dans les HLM à 19 degrés. C'est une des pistes de la ville de Paris pour faire des économies d'énergie. Donc il va falloir acheter des pulls. Alors les spécialistes vous disent qu'il faut en fait regardez dans les chambres, il faut que dans la chambre, la température soit comprise entre 16 et 19 degrés. Si vous êtes entre 16 et 19 degrés, vous n'avez pas besoin de rallumer le chauffage parce que ça augmentera votre facture d'électricité et en plus, on risque de mal dormir. Donc à vous finalement de vérifier. En revanche, si on passe en dessous de 16, il faut peut-être rallumer le feu. Est-ce qu'autour de la table, vous avez, vous êtes frileux. Tiens, moi, je te sens frileux, toi, non?
Ouais, mais enfin, moi, j'ai l'avantage d'habiter dans le sud. Donc, pour l'instant, oui, la seule chose qu'on va allumer, c'est le barbecue. Donc, le chauffage, pas encore.
Le chauffage au mois de décembre.
T'as quoi comme type de chauffage, d'ailleurs, dans ta maison?
Chauffage au sol et cheminée. C'est très bien, la cheminée aussi.
Les inserts?
Ouais.
Ouais.
Donc, avec les granulés, dans le sud, c'est pas une question pour l'instant.
Non, dans le sud, c'est pas une question. Par contre, la facture énergétique, c'est une question. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va vous faire peur. Je suis en train de faire une petite analyse de ma consommation d'électricité. Je paye environ 950 euros par mois.
Oui.
Voilà.
Oui, mais t'as un 12 000 mètres carrés aussi.
Voilà. Non, 11 000. Non.
Mais c'est la masse.
150 euros par mois.
Ouais. Donc, je suis en train de, même moi, je suis en train de regarder, bon, comment on fait pour faire un petit peu baisser ça, parce que ça fait bientôt, EDF va bientôt représenter un salarié, quoi, sans charge.
Ouais, c'est ça.
C'est pas Versailles ici!
Si, chez Mourad, c'est Versailles.
Ouais, ça doit être
Zora,
ça.
Zora et Bruno.
Non, mais après, il y a.
T'as regardé, vous êtes chauffé à quoi, vous? L'asthmal habitant.
L'asthmal habitant, d'un côté, chauffage au gaz, et de l'autre côté, chauffage collectif. Mais les 19 degrés dans une maison ou un appartement, ça. Pour moi, c'est la norme. Il n'y a rien d'exceptionnel, 19 degrés. Sauf éventuellement pour des personnes malades, des personnes âgées, etc. Mais on vit très bien à 19 degrés.
Mais là, en ce moment, il fait combien chez toi?
Voilà, 19.
Donc ça va.
C'est très bien.
Pas besoin de
dormir à plus de 19 degrés, c'est insupportable, quoi. Vaut mieux avoir une bonne couette et pas dormir dans la chaleur. On sait très bien qu'au-dessus de 20, 21, on dort moins bien. Donc de toute façon, on nous a expliqué, et d'ailleurs c'est même pas la peine de nous l'expliquer, avec l'augmentation des prix de partout, l'augmentation du gaz et l'électricité, donc de toute manière, il n'y a pas besoin de dire aux gens faites des économies, ils vont être obligés de les faire au regard de leur salaire, de leur revenu, etc. Donc la
Après,
norme...
Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne sur l'isolation, notamment.
Mais c'est surtout ça.
Il y a certains aujourd'hui dans des maisons, des immeubles
bien
isolés qui commencent à avoir froid.
Mais la vraie question, c'est ça, c'est comment les gens sont isolés, quel type de chauffage ils ont, à qui il est plutôt conseillé d'avoir plus de 19 degrés pour des raisons de santé, d'âge, etc. Mais globalement, quand on est jeune, entre 18 et 19 degrés dans une maison ou un appartement, on gèle pas. Non, pas du tout. Enfin, je vois pas la nouveauté, quoi.
Chez moi, il doit faire. Mais une fois, j'ai regardé là parce qu'il devait faire 20, je crois. Mais moi, j'habite dans un appartement qui est assez moderne, qui est bien isolé. J'ai cette chance-là. Et donc, on est chauffé au gaz et c'est pas non plus.
Ah oui, t'as pas de convecteur électrique.
Non, mais je suis chauffé au gaz, mais vraiment, quand j'entends que c'est les HLM de Paris qui veulent en descendre, en fin de compte, c'est la double peine pour les gens, parce que c'est des gens déjà qui sont dans une précarité, et en plus énergétique, parce que souvent, ces HLM sont mal isolés, enfin, c'est des bâtiments auxquels les travaux sont rarement faits parce que ça coûte cher et que les bailleurs, c'est pas trop leur truc, et effectivement, ça sera la double peine pour eux, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Moi, j'ai mon frère. Il m'expliquait cette semaine qu'il a l'habitude de charges. Alors, il est propriétaire, mais ses charges, elles sont quand même comprises.
Il est dans un pavillon, un appartement?
Non, dans un appartement à Poissy. Et il me disait que les charges, elles sont à 200 euros par mois. Là, ils sont montés à 750 depuis quelques semaines, enfin, depuis avant l'été. Alors, il n'y a pas besoin de chauffage. Par mois.
Bah oui, les charges, ouais.
Mais oui, mais il y a de l'abus, il y a de l'abus. Non, mais moi, je trouve qu'il y a de l'abus. Je regardais par exemple, les chiffres de la consommation. Il y en a qui profitent. Il y a une espèce de profit, incroyable de l'augmentation des prix non justifiée. Là, ils parlent de charges. Faut quand même qu'ils les expliquent. Quant au chauffage, c'est dans les HLM, l'obligation, ce serait d'abord d'isoler. C'est pas de dire aux gens chauffez moins, c'est d'obliger les bailleurs à isoler, d'obliger les propriétaires à faire les travaux, parce que c'est ça la vraie question. Dès qu'on isole, on gagne 1, 2, voire 3 degrés. Punir des gens parce que leurs appartements sont des passoires, et punir des gens parce que l'isolation leur incombe pas au niveau du coût, je trouve ça un peu fort de café. Il faut quand même déjà obliger les gens qui sont propriétaires ou les bailleurs à déjà isoler. Maintenant, si les gens ont 19 degrés chez eux, c'est pas la peine de râler non plus, quoi. 19 degrés chez toi, ça va, quoi.
Ce qui est surprenant quand même, c'est qu'on est en train d'accepter petit à petit n'importe quoi.
Ouais. Ben oui.
D'accord.
Je veux dire, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que tout augmente. Bientôt, il y a une partie de la population qui va travailler pour payer son chauffage. À la fin du mois, ils n'auront pas mangé, mais ils auront eu chaud.
Ouais, voilà.
Ou son essence.
Je me demande comment dans un pays comme la France, aujourd'hui, on peut en arriver là.
T'as raison, les gens sont
dociles. Comment on peut en arriver là? Est-ce que le gouvernement se rend compte aujourd'hui de la différence qu'il y a entre la hausse des salaires et la hausse
du coût de la vie,
justifiée ou injustifiée, parce qu'il y a beaucoup, on a un système aujourd'hui financier qui fait qu'on a un alibi pour augmenter, donc beaucoup de gens augmentent uniquement parce qu'ils ont un alibi, je veux dire, voilà, l'alibi, on le connaît, et je sais pas où ça va s'arrêter, par quoi ça va se terminer. Moi, je crains le pire. Je veux dire, simplement, ce pays est en train d'entrer dans une véritable précarité. Et je veux dire, moi, je vis dans un monde normal, même si j'ai la chance d'avoir un peu plus de moyens que la moyenne. Même moi, à mon niveau, je commence à regarder. Parce qu'on se dit, ça devient indécent, quoi. Ouais. J'ai vu des augmentations de prix qui sont juste indécentes.
Oui, mais
je vois les gens dans les grandes surfaces, par exemple. J'ai jamais vu autant de gens qui calculent sur leur portable, qui regardent. Enfin, il y a une vraie.
Oui, mais justement, Morad.
Et à côté de ça, on va se mêler de choses comme si on était une puissance mondiale où tout allait bien. À côté de ça, le train de vie de l'État n'a pas baissé. À côté de ça, on se prend pour une superpuissance. Alors que simplement, on est un pays qui est en train de. Enfin, moi, je vais caricaturer, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'entrer dans le quart-monde.
Doucement. Zora, c'est vrai que moi, ce qui me choque un peu, c'est que, par exemple, à Paris, donc, on réfléchit à faire baisser la température pour les HLM. Moi, j'aimerais bien que dans la communication de ceux qui nous gouvernent, il y ait tout d'abord, nous, on va faire des économies.
Bien sûr.
On aura fait toutes les économies possibles, on s'attaquera à vous.
Priorisation des problèmes.
On connaît le train de vie des villes comme Paris, etc., avec des adjoints, des conseillers, etc. J'aurais aimé, tu vois, en disant, ben voilà, nous, on fait des efforts, et puis après, on demandera en plus aux plus modestes, parce que là, on parle des HLM, Zora.
Mais c'est ça qui devient insupportable pour les gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'exemplarité, on ne peut pas non plus traiter de populistes tous ceux qui disent que, comme Olivier vient de le rappeler, que l'État doit donner l'exemple et qu'il n'y a pas de petites économies à un moment donné où
c'est
on nous explique.
C'est notre argent aussi,
donc. Ouais. Non, mais si tu veux,
c'est notre argent qu'il faut économiser partout.
Il faut mettre ça au regard de ce qu'on nous dit. On nous dit, c'est la fin de l'abondance, il va falloir faire attention. Très bien. OK. Dont acte. Je veux bien l'entendre. Ouais. Mais ça veut dire que quand tu dis ça, donc il n'y a plus de petites économies. Quand tu dis que le train de vie de l'État, le nombre d'élus, le fonctionnement des collectivités, etc., doit aussi faire l'objet d'un certain nombre d'attentions et d'économies, t'es plus populiste là, t'es juste en réalité à ce que l'État te demande à toi, c'est-à-dire il te prévient que c'est la fin de l'abondance, il te prévient que tu vas devoir faire des économies. Donc là c'est collectif et général, parce que souvent on nous dit, oui mais tu comprends, tu demandes qu'on rabiote là-dessus, etc., c'est populiste. Ben non, puisque alors à ce moment-là, nous aussi on peut traiter l'État de populiste qui nous demande à nous de mettre fin à l'abondance. Et deuxième chose, je voudrais dire à Morad que c'est dans une société comme la nôtre, la solidarité elle est quasi obligatoire, parce que c'est pas parce qu'on vit bien. Non, mais c'est pas parce qu'on vit bien que on est parce que plus les gens vivent mal et plus la société devient en insécurité et violente. Donc de toute façon, tout le monde paye, y compris les gens qui vont bien. Donc je suis d'accord avec toi, ça concerne tout le monde. Il suffit pas de se dire ouais non mais moi je suis dans mon couloir de vie, je gagne super bien ma vie, je suis épargné. Non, nos enfants, tout le monde vit ensemble, tout le monde c'est une société collective. Donc tout le monde a intérêt à ce que tout le monde vive bien et que, parce que c'est l'insécurité totale. On se souvient que pour 1,60€ d'essence, on a eu les gilets jaunes. Il n'y a pas longtemps, à 2,20€, c'était le silence total. Donc, est-ce que les gens sont complètement anesthésiés, tétanisés, complètement réduits,
résignés.
C'est effrayant. Jusqu'à quand, jusqu'où les gens vont pouvoir vivre décemment?
T'es pas d'accord, on n'est pas résigné.
Je vais faire un teasing pour la fin de l'émission, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les gens ils se prennent en main aussi. C'est-à-dire qu'à force de te plaindre, il va falloir quand même qu'à un moment donné, tu agisses.
Ah bah oui,
et agir, c'est pas uniquement voter. C'est-à-dire que si tu votes et que tu fais
les gens votent plus, enfin votent.
Ouais, ou ceux qui votent. Et si tu votes et que tu penses que t'as signé un chèque en blanc pour la personne pendant 5 ans, et que ce qu'il fait, déjà, ils ont fait pendant 5 ans, ça t'a pas plu. Mais t'as revoté pour eux, soi-disant, parce que tu voulais pas
ça
le faire.
Ça veut dire quoi? C'est aller de manifester.
Agir, c'est pas manifester.
Moi, c'est mon point de vue, mais moi, je pense que le peuple a le pouvoir, et qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu votes que tu peux pas reprendre le pouvoir. Je lis, on en parlera à la fin de l'émission, mais je pense réellement que là, aujourd'hui, moi, j'entends plus des gens qui se plaignent.
Ça ne nous donnera pas plus de gaz.
Alors, on va écouter.
De force,
on en reparlera à la fin de l'émission quand il s'agira de la réforme des retraites et de savoir si le président de la République doit prendre le risque de bloquer le pays, oui ou non. Carlos veut intervenir dans les GG. Il est chauffagiste du côté des Hauts-de-Seine. Bonjour Carlos.
Bonjour les grandes gueules. Ça fait un moment que j'essaie de vous joindre. Franchement, je suis heureux. Je suis très heureux. Mes collègues sont en train d'écouter. Et je passe bonjour à toute l'équipe Equitech et ses primes qui m'entendent.
Carlos, alors aujourd'hui, est-ce que vous voyez les Français rallumer le chauffage ou pas?
Je suis déjà garé dans un immeuble à Paris 17e avenue Gourgaud, déjà pour mettre en route des chauffages, déjà pour vous le dire toute la vérité. La semaine dernière, on en a déjà mis à peu près 7 immeubles. Et là, on a les demandes pour les mises en service du chauffage un peu partout. Alors vous voyez l'énergétique, moi ça me fait rigoler, toutes ces conneries. Et... ce que j'avais dit aux standardistes, c'est qu'il y a certains immeubles, on n'éteint même pas le chauffage. On laisse le chauffage toute l'année.
Ah bon?
Parce que oui, parce qu'ils ont des sondes extérieures et on nous dit de pas nous éteindre parce que s'il fait un coup de froid au mois de juillet, au mois d'août, ils auront leurs petits radiateurs qui vont chauffer le matin, vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, ça me fait rigoler, moi, tout ça. Bon, enfin bref, quoi. Voilà.
Mais comment ça se règle les chauffages dans les immeubles où vous êtes alors ?
Au jour d'aujourd'hui, tous les immeubles ils sont équipés ce qu'on appelle avec des régulations. Ça veut dire que c'est des régulations et des sondes extérieures qui fonctionnent par rapport à la variation de la température. Ouais. Si on arrive dans un immeuble où d'aujourd'hui il fait 12 degrés, bah ils vont toujours avoir la chaudière qui va se mettre en route avec une petite température dans les radiateurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on les arrête pas, voilà. Mais ça veut dire que la chaudière elle est toujours en fonctionnement toute l'année 24/24, puisqu'on a des chaufferies où on fait la production d'eau chaude et on a des chaufferies où on fait le chauffage en même temps. Et certains immeubles ne sont pas d'accord pour arrêter le chauffage.
Mais puisque vous êtes chauffagiste, est-ce que vous conseillez aujourd'hui à ceux qui ont encore des convecteurs électriques ou autres de changer de mode de chauffage ou pas? Est-ce que ça vaut la peine, Carlos?
À vrai dire, sur ce terrain, je pourrais pas vous le dire franchement. Moi, mon métier, c'est chauffagiste. Je fais du dépannage dans les chauffages. Voilà. Après, nous, chez nous, on est une grosse structure. On a des gens qui font des études pour ça. Mais à vrai dire, je vais pas dire des bêtises. J'ai pas envie de. Voilà.
D'accord. Voilà. Mais vous pensez que la note va flamber quand même là? Franchement,
moi, je pense que oui. Parce que les gens, ils disent oui. Mais bon, ils les mettent en route quand même. Ils les mettent en route.
Ah, ils les mettent en route.
Chacun son petit confort.
Donc il y a aussi à faire gaffe soi-même, quoi, de toutes les manières.
Exactement.
Oui, mais attendez, parce que moi je suis pas d'accord avec l'idée qui est en train de s'installer en France de faire culpabiliser les Français.
Mais
les Français, ne sont pas responsables de la crise énergétique de ce pays. Hein. Les Français ne sont pas responsables des mauvais choix qu'on a fait sur le nucléaire. Ils sont pas responsables de la guerre en Ukraine qui a déstabilisé aussi tous les marchés. Voilà. Et on peut pas dire à des Français qui ont besoin de se chauffer parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui ont besoin, notamment les personnes âgées,
bien sûr,
veulent se faire chauffer. Il y a des gens malades. Il y a des immeubles qui sont des passoires, etc. Donc on va pas commencer à faire la police du chauffage.
Parce que là, on est déjà
en train de faire la police de l'électricité, la police du transport. Donc là, je sens qu'on va mettre la police du chauffage.
Je vais donner un exemple personnel. L'année dernière, j'étais sous chimiothérapie et à la domicile. Ma chimio a commencé en mars, donc on est tombé de mars jusqu'à juin. J'avais à 25 degrés. J'avais froid. J'avais froid, mais j'avais pas le choix. Parce que ma santé m'a obligé. Donc, si on m'avait à ce moment-là dit, t'es obligé de te chauffer à 19, Donc, c'est, hier, il y a pas de, je pense que chez chacun, verra, si des gens dans la précarité sont âgés ou malades et qu'ils sont obligés de chauffer, comment l'État va intervenir pour aider ces gens-là? L'État va intervenir?
Et puis, ça va avoir aussi un impact, sur la consommation, le budget des Français n'est pas extensible.
Mais oui.
Ce qui va être consommé dans le budget énergétique sera de la consommation qui ne sera pas dépensée par ailleurs, qui fatalement va générer un manque dans la consommation, forcément des dépôts de bilan, enfin des manques.
Mais bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, la facture énergétique va représenter un pourcentage du budget énorme.
Se déplacer, se chauffer et manger.
Et puis accessoirement.
Alors voilà, à quoi va être réduit la vie des gens.
Il y a quelque chose aussi que le gouvernement doit comprendre.
Oui, mais le gouvernement doit comprendre aussi
que travailler, on ne travaille pas pour se payer le chauffage et se payer de l'essence. Mmh. Travailler, c'est d'abord pour pouvoir vivre. Mmh. Et vivre, ce n'est pas se chauffer et pouvoir se payer de l'essence. Donc, il y aura aussi une crise à un moment donné dans l'utilité de travailler.
Si c'est travailler pour se payer du chauffage,
je préfère avoir froid.
Mon
cher Carlos,
il a la pêche, Carlos.
Attendez, c'est pas fini. Alors, la semaine dernière, je pars à Boulogne-Billancourt pour mettre un immeuble en route. Il était 11h30. J'ai filmé, j'ai mis en direct sur mon Facebook et j'ai mis sur Twitter. Je passe dans tout le bois de Boulogne, tous les lampadaires étaient allumés à 11h30. On éclairait le bois de Boulogne. J'adorais.
La nuit, ça peut être utile, mais le jour.
Oui, bien sûr, j'ai kiffé. J'étais mort de rire.
Carlos, merci d'avoir été avec nous, de votre bonne humeur, votre franchise.
Est-ce que je peux avoir, un t-shirt des grandes gueules? Ça fait des années que j'essaie de vous avoir, je sais même pas.
Attendez, Carlos, j'ai une question. Est-ce que vous voulez venir un jour dans les grandes gueules? Parce que vous êtes pile poil dans les sujets en ce moment, le chauffage, l'électricité.
Ouais, mais là, ça va être un peu dur parce que là, maintenant, nous, ça y est, c'est la grosse reprise, malheureusement.
3 heures, vous pouvez pas faire 3 heures.
Je peux pas.
C'est la France qui travaille.
Voilà. Bien sûr. Et ben voilà, l'exemple parfait.
J'aurais bien aimé, mais là, ça va être le
chauffage. S'il fait moins 12 à son plateau.
Mais Carlos, ce qu'on fera, c'est de temps en temps, on vous passera des petits coups de fil comme ça.
Bon.
Vous nous racontiez comment ça se passe dans les immeubles, la régulation des chauffages.
Il y en a qui vont se mettre à gueuler parce qu'il y en a au quatrième, ils vont avoir 20, l'autre il va dire qu'il en a 18, il en a pas assez, il y aura des rendez-vous sur place. bah voilà, ils s'engueuleront les uns aux autres. Non, il faut remettre un peu plus fort, il faut ceci, cela, enfin bref. Bon. Mais on connaît, nous, déjà, on est habitués. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, alors vous savez, j'ai l'habitude.
Salut Carlos, salut Carlos. Bonne tournée, à bientôt, on vous envoie
et
le t-shirt.
Et mon t-shirt,
vous l'avez, vous l'avez.
Deux presque, hein.
Ensuite, il faut lui donner la suite.
Vous avez un numéro de carte bleue pour le t-shirt.
Ouais. Et je passe bonjour à Steven et à Jérémy et à Max qui sont en train de m'écouter en direct. Ils n'y croyaient pas.
Salut Carlos, à bientôt. Dans un instant, Thomas qui sera avec nous. Carlos était dans les Hauts-de-Seine avec Thomas. Nous serons du côté de la Charente-Maritime. Alors, il a allumé le chauffage. Pourtant, la Charente-Maritime, on est plutôt sur normalement du tempéré. Mais vous expliquez pourquoi, quel type de chauffage et si ça fait va faire monter sa facture. Allez, il est 9h20. Vous êtes sur RMC. RMC Story, c'est l'heure des grandes gueules. Est-ce que vous rallumez le chauffage en ce moment? On vous attend au 32-16.
Les grandes gueules sur RMC avec Biofib, l'isolant en chanvre idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC.
9h30.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Mourad Boudjelal, Bruno Poncé, Zorabitan qui est de retour avec nous. On parle chauffage. C'est vrai que les températures commencent à baisser. Alors, bien sûr.
Le dipensine risque de nous remonter les températures bientôt. Hein.
Dans certaines régions, c'est Thomas qui va en discuter avec nous du côté de la Charente-Maritime. La Rochelle, un coin que connaît bien Zorabitan.
Oui,
en plus.
Oui.
Bonjour Thomas.
Ma région.
Bonjour.
Alors Thomas, vous avez rallumé le chauffage ou pas?
Exactement, oui. Alors le chauffage à bois, hein, pas le chauffage électrique.
D'accord. Les pelés les...
Non, chauffage à bois classique avec un insert, ouais, les bûches.
Avec un insert. Pourquoi vous l'avez fait?
Les nuits commencent à être fraîches, hein, on est tombé en dessous 8 degrés, donc puis nous on a une vieille maison avec ma femme, une vieille charentaise en pierre, donc c'est vrai qu'il fait vite frais à l'intérieur. D'accord. Et puis on a un nouveau-né de 2 mois, donc voilà.
Ah oui.
On...
Comment s'appelle-t-il?
Théo.
Théo, ben le bonjour à Théo, bienvenue.
Mais Thomas, c'est dire, voilà, la facture a forcément augmenté, surtout en 2023.
Oui, et puis là, on a reçu, il y a une petite semaine, un petit SMS sympathique un matin de notre fournisseur d'électricité, comme quoi notre contrat allait être revu à la hausse.
Eh oui. Pourquoi? Quelles sont les raisons?
Parce que
voilà, c'était un peu ça, c'était un peu flou, c'était parce que... il n'y avait pas vraiment de motif. Alors après, il parlait de la conjoncture actuelle avec la guerre en Ukraine, etc. Je trouve que ça a bon dos.
Mais dites-moi, Thomas, le bois, vous le faites rentrer par ster, j'imagine?
Oui, c'est ça, ouais.
Est-ce que ça a augmenté le prix des sters de bois aussi?
Par rapport à l'année dernière, non.
Non, c'est quasiment
le même prix.
Tant mieux.
Donc non, c'est pour ça, là on s'est permis de rallumer le poêle à bois.
Et de toute façon, vous n'avez pas tellement le choix, c'est-à-dire que... voilà.
Ah non.
Un enfant, oui.
Non, bah de toute façon, si on allume le chauffage électrique, c'est sûr que la facture va exploser. Donc du coup, non, on n'a pas vraiment le choix.
Mais Thomas, merci d'avoir été avec. Vous faites quoi dans la vie, Thomas?
Je suis assistant manager, moi.
Et votre épouse?
Elle travaille dans les assurances.
D'accord. Et au niveau pouvoir d'achat, cette rentrée, comment ça se passe, les courses et tout, dites-moi?
C'est compliqué. Alors moi, pour vous dire, je travaille dans la grande distribution alimentaire. Et donc, c'est vrai que là, depuis quelques temps, on voit beaucoup de prix qui augmentent.
Oui.
Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Tout augmente, hein. L'essence. Nous, on n'est pas à plein de niveau salaire non plus. Mais c'est vrai que pour nous aussi, on voit la différence quand même.
Et vous, du côté de La Rochelle ou région, vous avez besoin de vos 2 voitures, j'imagine, quoi.
Ah bon, sans voiture, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de transport en commun.
Il faut quand même que le carburant, ça a baissé. Parce qu'en plus, la ristourne. Alors, la ristourne, ça va durer que 2 mois. Mais... c'est à la pompe, c'est quand même plus supportable.
Ouais, mais vous,
oui, c'est largement plus supportable. Mais la moindre chose, on fait un déplacement chez nous. Donc,
Ouais, mais enfin, vous regardez au quotidien quand même. Quoi. Voilà.
C'est ça.
Merci Thomas d'avoir été dans les GG. À bientôt. Bonne journée du côté de La Rochelle. On va continuer la balade. Les Hauts-de-Seine, la Charente-Maritime, l'Isère. Vous voyez où est l'Isère?
À peu près.
Côté de Lille, je crois.
Non, Lyon.
Non, Strasbourg.
Grenoble.
La géographie est vous.
Grenoble.
C'est compliqué. Olivier, bonjour.
38.
Bonjour.
Olivier, le chauffage, vous l'avez remis ou pas? Surtout du côté de l'Isère.
Bah oui.
Quel type de chauffage?
J'ai combien dans la maison?
Alors, habituellement, on chauffe à 21,5. Là, j'ai baissé à 25. J'ai baissé d'un degré. Et j'ai condamné 80 mètres carrés de la maison, qui est très grande, qui ne sera pas chauffée cette année. Voilà.
Ah oui, il y a une partie de la maison que vous avez décidé de ne pas chauffer.
Ouais. Chauffage central au gaz, donc contrat en tarif réglementé. 2021, facture de janvier... 2021, c'était 500-600 euros. 2022, consommation équivalente, 1200.
Et ça a doublé.
Voilà. Ouais. Du kilowattheure a doublé. Et puis encore 1000 deux mois après. Donc, il y a un moment.
Et ça va malheureusement augmenter en début 2023.
Mais du coup, alors, c'est la question, elle est simple, hein, Olivier. Comment vous faites alors? Comment vous en sortez? Comment ça se passe?
Ben, on provisionne, on n'a pas trop le choix. Hein.
Caprice, c'est fini, quoi.
La double peine, c'est que je suis taxi. Moi, je passe 6 000 litres de gasoil par an.
Ouais. Taxi.
Quand je faisais des pleins à 120
taxi,
euros.
Vous faites rembourser une partie de. Vous faites rembourser la taxe, normalement.
Alors,
sur le gasoil.
Oui, mais en c'est partie. Fixe. Ouais. C'est 32 centimes du litre. Alors, dans les autres départements, dans les autres régions, pardon, c'est 32 centimes. Nous, en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 30 centimes parce que la région a baissé de 2 centimes la taxe, la TIPP.
D'accord.
Mais... c'est fixe. Donc, quand on met. Et puis, alors, la récupération de la TIPP de cette année, c'est au milieu de l'année prochaine. Hein. Donc, faut faire avancer.
Donc, l'argent, faut sortir. Bien sûr.
L'argent, faut le sortir.
Bah écoutez, voilà. Olivier, bon courage à vous au quotidien. Merci vous aussi de nous avoir
raconté ça. Votre femme est dans la partie non chauffée ou quand même
Non, c'est sa belle-mère.
C'est sa belle-mère,
d'accord. Non, c'est la plus frileuse, ma femme. C'est,
donc elle est dans la partie chauffée. Vous avez mis les enfants dans la partie non chauffée.
Le radiateur avec trois plaids.
Et voilà. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Pourquoi les femmes sont plus frileuses que les hommes?
Salut Olivier, merci d'avoir été
ça
avec
mérite
nous,
une
Olivier.
Émission, ça.
Où est-ce que vous habitez dans l'Isère?
On a moins de poils, me dit Anaïs Sens.
Dans l'Isère, on est entre Lyon et Chambéry, précisément entre Lyon et Chambéry.
Et voilà. La commune, comment s'appelle la commune?
Saint-Clair de la Tour. Quand vous partez en vacances et que c'est galère sur l'autoroute parce qu'il se met à neiger, c'est là, c'est chez moi.
Ah d'accord.
Salut Olivier, merci d'avoir été avec nous. Il y a un truc qui est paradoxal, c'est que dans les années 60-70, on a fait enlever les gros radiateurs en fonte,
tu sais,
dans les maisons, qui en fait...
chauffent super bien.
Ça chauffait super bien. Et on nous a fait
installer. Dans les immeubles parisiens.
Parce qu'on a privilégié.
Les trucs en alu, en acier.
Et les fameux convecteurs électriques.
Voilà.
Quoi.
Et là.
Ce qu'on appelle les grippins ou les sèche-cheveux.
Et là, ça coûte une fortune. Et c'est vrai que les radiateurs en fonte, ça a été. Ça chauffe. Ceux qui les ont gardés, ça chauffe super bien. Ça consomme. En gaz, au gaz.
Au gaz. Enfin.
Mais tout ce qui est électrique. Après, il y a des nouvelles générations électriques qui, soi-disant, ne consomment pas beaucoup.
Avec le petit thermostat sur
le thermostat, donc.
Voilà, même connecté, etc. Mais quand même, l'électricité devient tellement hors de prix. Je ne sais pas si le gaz va s'aligner, augmenter, mais aussi. Mais l'électricité, c'est encore pire.
Ça va pas baisser.
Encore pire. Non, ça va pas baisser.
En fait, la fin de l'abondance, c'est la fin des vacances, la fin des loisirs, c'est la fin de tout ça. C'est-à-dire qu'on vous donne d'expliquer, vous allez payer votre gaz, votre électricité, et puis voilà.
Et t'as des milliers de gens qui sont aussi en précarité parce que tu sais, l'ouverture à la concurrence qui a été faite avec tous les nouveaux entrants dans le marché. Aujourd'hui, t'en as beaucoup qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent pas à fournir et qui certainement. Et t'as beaucoup de gens qui se retrouvent du jour au lendemain à changer de fournisseur. Et quand t'arrives en primo sur quelqu'un, tu te fais des montées.
Emmanuel Macron, d'ailleurs, dans une interview accordée à BFM TV dans l'avion, là, de retour de New York, expliquait qu'il fallait surtout pas changer de fournisseur en ce moment.
Sauf que t'as
parce
pas
qu'ils sont en train de négocier. Ils sont en train de négocier. Et de président, de façon, s'il a été élu, mais parce qu'ils sont en train de négocier justement le calcul de l'électricité, du gaz. Sur le plan européen, donc il ne faut pas bouger.
Bon, après, il faut quand même rappeler que tout ça, la France ne pourra pas y faire grand-chose. Tout se décide à l'échelle européenne.
On va continuer de se balader dans le pays. On va aller du côté du Puy-de-Dôme.
Ah, 63.
Où parfois, on peut avoir une légère fraîcheur dans le Puy-de-Dôme.
C'est clair.
C'est Nathalie qui est avec nous à Beaumont dans le Puy-de-Dôme. C'est ça, Nathalie?
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez rallumer le chauffage?
Non, je ne vais pas rallumer le chauffage. Je suis très en colère parce qu'on me demande de faire des économies. Donc, on m'explique qu'il va y avoir un bouclier fiscal. Enfin, il y aura un bouclier. Donc, je vais payer moins que ce qui était prévu. Malheureusement, je suis chauffée au gaz puisque j'ai changé ma chaudière l'année dernière avec une aide de l'État. Enfin, une petite aide parce que ma chaudière, elle coûtait dans les 3000 euros. On m'a quand même donné une aide de l'État. On m'annonce que je vais avoir une augmentation. Cette augmentation, j'ai une facture gaz, mais j'ai aussi une facture électrique, d'électricité, puisque j'ai la lumière, j'ai tout. Donc, double peine, je vais avoir deux augmentations. Je vais recevoir ma taxe foncière. J'ai un rappel de 500 euros. J'ai un rappel des impôts. Je sais que je suis gestionnaire de paye. Je sais que je vais avoir une baisse de mon salaire en janvier puisqu'il va y avoir les plafonds de la Sécu n'ont pas augmenté depuis 3 ans, donc on va avoir un rappel au moins de 4,5%.
Ouais.
Donc tout ça, c'est plus possible. Et je fais partie des gens, je suis mariée, j'ai un petit salaire, mais comme mon mari gagne le double de moi, on fait partie de la classe moyenne. Je n'ai aucune aide. Je suis, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un écart de 1000 euros avec un SMIC, je suis à 300 euros avec une formation. Donc je gagne autant que finalement un SMICard. Donc je suis dans une colère pas possible. Je suis, on se prive de tout, on n'a plus de loisirs, on n'est bon qu'à payer.
Qu'est-ce que vous appelez, Nathalie, on se prive de tout, c'est-à-dire de restaurant, d'aller au cinéma de temps en temps, c'est ça?
Par exemple, un exemple tout bête, là j'essaie de sensibiliser mes enfants en leur disant, vous voyez, écoutez, Noël, ça sera pas comme les autres années. Donc faites-moi une liste, vous aurez des petits cadeaux. Donc mon fils de 12 ans, il demande un petit ballon, un porte-clé, c'est pas des trucs excessifs, vous voyez. Mais là, on ne peut plus parce que comme on fait partie des gens qui travaillent, on paye des impôts, on est très peu, parce que je fais les bulletins de paye, donc je vois qui en paye et qui en paye pas, donc on est beaucoup, bien sûr. Il y a des gens, ils veulent pas que leur employeur voit, donc ils payent directement aux impôts, mais ils sont très peu. Donc en fait, moi je trouve que toutes ces aides données n'apparaissent pas sur le bulletin. Donc finalement, les gens qui travaillent, on a rien. Moi, je veux dire, quand il y a eu la crise en janvier, j'ai cherché. J'étais à 25 km de mon travail. Je prenais la voiture. J'ai démissionné. J'ai cherché un travail à côté de chez moi. Je prends le vélo. Je me mets à pied. J'ai mis mes enfants dans le bus. 10, 12 ans, ils prennent le bus de ville. On essaye de trouver des solutions. On est bon qu'à payer. C'est démoralisant. Je veux dire, je me dis maintenant, c'est moi qui honte de ce que je gagne, et d'aller travailler. Enfin, c'est lamentable. J'ai une convention collective. Je travaille dans le médical. Je travaille dans le privé. On a augmenté les soignants, les aides-soignants. Il y a eu la Forcade, il y a eu le Ségur. C'est 183 euros. On a oublié les administratifs. Les administratifs, on sert à rien. Donc, en fait, on se retrouve avec des gens, des agents de soins qui ont une petite formation, qui ne travaillent pas à temps plein, qui gagnent autant que moi.
Moi, ils travaillaient à 100% du temps. Ouais,
mais Nathalie, c'est tout le problème de cette politique de chèque. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la limite. Alors, les chèques sont sans doute utiles pour les personnes qui sont vraiment en difficulté, mais à force de ne faire que des chèques pour régler les problèmes, déjà, certains ne l'ont pas. Enfin, beaucoup de Français n'ont pas ces chèques et pourtant, ils sont pas millionnaires. Et puis surtout, ça ne règle pas le problème de fond, des salaires.
Ça règle pas le problème de fond. Et de plus, quand on a donné la prime pour l'essence, on a donné 100 euros. Ça ne s'est pas contrôlé. On n'a pas regardé à qui on l'a donné. Je l'ai donné à des médecins. Est-ce que vous vous rendez compte que je l'ai donné à des médecins? Puisque le salaire qui était de référence, c'est le salaire de référence. Il y avait un salaire, il fallait donner, la prime était valable si vous gagnez tant. Mais les gens qui travaillent 8 heures, qui travaillent, parce qu'il y a des petits contrats dans ces milieux-là. Bon, moi, je connais mon milieu à moi, mais bon, il y en a d'autres. Et ces gens-là, ils y ont eu droit. On leur a donné.
Nathalie. Nathalie, j'entends bien, c'est sur votre colère et ce coup de gueule de Nathalie, de cette France qui travaille et qui aujourd'hui ne comprend pas pourquoi elle s'en sort pas, alors qu'elle a un travail à 100%,
qu'ils sont quand même deux à travailler, quoi.
Avec son mari qui gagne bien sa vie aussi. C'est avec vous qu'on terminera ce sujet de discussion. On a posé la question, est-ce que vous allez rallumer le chauffage, là, avec l'automne qui arrive? C'est un non à 68%, 1200 votes, là, durant nos 20 minutes de discussion. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le on s'en fout, on s'en fout pas, préparé par notre coproducteur Louis Gerbier. S'il était chef de l'État, François Hollande n'irait pas au Qatar. La hausse de la baguette en France, contenue par rapport à nos voisins européens, on s'en fout ou on s'en fout pas? Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Mourad Boudjelal. Il est pas froid, il est sans chaussettes, Mourad, aujourd'hui en plus.
Mourad, tu vas voir, tu vas être avec nous et Bruno Poncet.
Qui est là. Allez, on y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec Louis Gerbier, notre coproducteur. Bonjour, Louis.
Bonjour à tous.
Allez, vas-y.
Alain, toi, tu me disais que t'étais sans caleçon aujourd'hui. Hein.
Oh. J'ai la fourrure intérieure.
On commence en écoutant l'ancien président de la République, François Hollande, au sujet de la Coupe du Monde au Qatar.
Ce que je pense, c'est que, compte tenu de ce que l'on sait des conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction, si j'étais chef de l'État, mais je ne le suis plus, donc ma position est facile. Je ne me rendrai pas au Qatar.
Alors, on s'en fout pas, Zora.
Enfin, moi, je m'en fous un peu, quand même.
Bruno ?
Ah, on s'en fout, mais il a honte de rien, quand même.
Mourad ?
On s'en fout, parce que la planète va péter, donc il n'y aura pas de...
Il est optimiste, ce matin.
Ouais, ouais, ce matin, Mourad...
Vas-y, Bruno, commence.
Non, mais il est en charge de la France pendant 5 ans. Il a pris le Qatar comme un allié commercial pendant des années. Et là, il est en train de nous faire un sketch, alors qu'il aurait très bien pu dire à l'époque... Ben, on n'y va pas, et puis c'est tout. Et c'était une décision. Vu que l'équipe de France et la Fédération française, elle est sous l'égide du ministre des Transports, donc du président de la République, il n'y a qu'à dire, ben stop, on n'y va pas. Alors en vrai, c'est comme le. Enfin, en ce moment, Hollande, il nous fait rire. Il sort des trucs, comme si les gens attendaient déjà qu'il parle et que les gens s'intéressent à ce qu'il dit, mais tout le monde s'en fout aujourd'hui de lui.
Ben, il est toujours invité.
Oui, c'est ça. Ouais, ben, parce qu'il fait rire les gens. Il blague.
Enfin, moi, je pense que si on exclut la Coupe du Monde au Qatar, si on la boycotte, on doit aussi exclure le PSG de la Ligue 1.
Comment ça, Mourad ?
Franchement,
tu exagères un peu.
Non, mais il faut être cohérent avec.
Mourad, tu vas trop loin.
Il n'y a pas un Qatar gentil, un Qatar méchant.
Et alors, dans ce cas-là aussi, on n'achète plus de gaz au Qatar, alors ?
Aussi.
Et puis, non, mais soyons cohérents. Ouais, et puis, alors les rafales, pardon.
Attends, Olivier, on a plus besoin de gaz que du PSG.
Et puis, on récupère le Louvre.
Attendez, on vend plus nos armes, puisque je vous rappelle que la France est l'un des plus gros vendeurs d'armes au monde. Et à qui on vend nos armes ? On ne vend pas nos armes à la démocratie en général.
On récupère le Louvre, on récupère aussi les grands commerçants et les grands commerces parisiens.
J'ai regardé, mais.
Non, mais je fais un raisonnement en disant que. Non, mais. Pas un Qatar gentil, un Qatar.
Non, mais t'as raison,
on boycotte le Qatar. Pourquoi cibler la Coupe du Monde ?
Voilà, mais on.
Allez, on continue.
Allez, on enchaîne. Louis Boyard a tweeté, je cite, il n'y a aucune différence entre un Zemmour qui se bat pour arracher le voile des femmes et les dirigeants iraniens qui se battent pour leur imposer. Les deux sont des ennemis de la liberté des femmes à choisir pour elles-mêmes. Mourad, on s'en fout, on s'en fout pas ?
On s'en fout pas.
Zora.
Bon, on s'en fout pas.
Et Bruno ?
On s'en fout pas, mais bon.
On s'en fout un peu quand même. Zora, vas-y, commence.
Bah, c'est un député avec notre argent qui dit des choses aussi incroyables. Enfin, je suis quand même atterré. Enfin, bon, il en est pas son premier coup d'essai. Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il a mis sur le même plan quelque chose d'une comparaison complètement imbécile et dangereuse et qui montre un peu son idéologie, c'est-à-dire que c'est un soutien des islamistes et des obscurantistes, je le vois pas autrement. Ici, les femmes, elles sont libres de le porter, et quand elles le portent, et même quand on n'est pas d'accord, personne ne leur arrache, personne ne les maltraite, personne ne les pourchasse, personne ne les tue, et on a le droit de penser que, de manière libre, que le voile est un instrument de ces islamistes. D'ailleurs, si c'était pas un instrument d'oppression, il y aurait pas de souci en Iran, premièrement. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire ? Il essaye de nous dire que finalement, le combat des iraniennes, c'est le combat des Françaises ici qui portent le voile.
En tout cas, il met les deux sur le même plan.
Ben, c'est la honte. Ce type est un soutien des islamistes. Voilà. Il veut relativiser et il veut minimiser la force de frappe
Bruno, barbare de ces gens-là.
J'ai l'impression que Zora, mais il peut pas comparer ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en France. C'est pas possible.
C'est n'importe quoi.
Il se rend pas compte. Enfin, moi, pour avoir des amis iraniennes, c'est un enfer ce qui se passe là-bas. Et à un moment donné, il est mignon. Je trouve que la NUPES devrait faire de la politique et pas de la communication. Il va falloir qu'ils se détendent un peu là-dessus. Et ils sont pas. Mais je pense qu'ils ont des trucs à régler chez eux. Surtout, on en reparlera tout à l'heure. Mais réellement, il y a un vrai sujet. Moi, je dirais pas comme Zora, va trop loin sur l'islamisme et tout. Mais je pense réellement que. Mais je pense vraiment qu'il faut pas comparer ça. Ils se rendent pas compte. Et Zora l'a dit. Par contre, elle a raison. C'est-à-dire que toutes ces dictatures islamistes, quand elles arrivent quelque part, le premier truc qu'elles font, c'est s'en prendre aux femmes, leur enlever leurs droits et les forcer à se voiler. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un symbole de l'oppression dans ces dictatures-là. En France, elles ont le choix. Tant mieux pour elles. Mais là-bas, c'est ça. Donc, il peut pas comparer les deux choses. Et après, voilà.
Mourad.
Moi, écoutez, je n'aime pas Éric Zemmour. C'est une notoriété publique. Ouais. Mais il est certain que si Éric Zemmour devenait président de la France, je préférerais vivre dans la France d'Éric Zemmour qu'en Iran.
On est d'accord, Mourad.
On continue le.
Allez, on se fait une petite séance de rameur. On écoute Olivier Faure sur France Info au sujet d'Adrien Quatennens.
D'abord, on écoute les femmes. Cette présomption n'est pas irréfragable. Ça veut dire qu'en fait,
Il y a des femmes qui peuvent mentir et qui peuvent ensuite être démenties par la justice, mais le premier réflexe,
pardonnez-moi,
c'est de
les croire. Là, il a avoué. Donc, c'est pas croire ou ne pas croire. Il a admis qu'il avait mis une gifle à sa femme.
Est-ce que vous connaissez le contexte dans lequel cette violence s'est exprimée? Moi, je condamne cette violence, évidemment. Je souhaite
Il y a des contextes qui la rendent plus acceptable?
Mais je ne sais rien. Enfin, sans doute avez-vous eu des gens autour de vous qui ont divorcé. Ça n'est pas toujours très simple. Et il y a parfois des échanges qui ne se font pas forcément uniquement dans la bienveillance réciproque. Je ne sais rien de ce qui s'est passé.
Oh là là. Alors, on s'en fout pas, Mourad.
On s'en fout pas.
Bruno ?
Non, on s'en fout pas du tout.
Et Zora ?
Ah bah non, là, c'est gravissime, là, ce qu'il a dit.
Vas-y, Bruno, commence.
Moi, j'ai honte. J'ai réellement honte. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas dire. C'est-à-dire que la violence faite aux femmes, la violence faite aux gens, c'est impossible de dire ce qu'il vient de dire. Et je trouvais que Faure était pas le plus mauvais depuis l'élection des députés. Je trouvais qu'il était pas si mal que ça.
Oui, ça c'est étonnant venant de lui.
Ah ouais, là, il a craqué complètement. Mais moi, je pense aujourd'hui, réellement, que, et tant mieux, les dossiers montent, et je pense que tous ces partis politiques. Hier, moi, j'ai entendu un débat sur la 5 où il y avait Aurélie Filippetti qui expliquait ce qui s'était passé avec Piketty. Une histoire qui est quand même hyper violente. Et que le Parti Socialiste a continué à inviter Piketty comme si de rien n'était.
Et il est invité partout, d'ailleurs.
Voilà. Alors qu'il a perdu au tribunal et que tout était acté et qu'en plus, il s'est permis de calomnier Aurélie Filippetti. Je trouve qu'aujourd'hui, nos politiques qui doivent être exemplaires dans tous les sujets, mais ce sujet de la violence faite aux femmes, c'est une honte d'entendre ça. Et je pense que Faure, non seulement il doit s'excuser, mais en plus, à un moment donné, pour moi, il devrait démissionner. Enfin, tu peux pas cautionner une violence faite aux femmes en disant qu'il y a peut-être des conditions. Il n'y a pas de conditions.
Mourad.
Ben, simplement, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre aujourd'hui que les salauds sont pas forcément qu'à droite, quoi.
Voilà.
Et on a l'impression que.
Il y a eu un très bel article là-dessus, d'ailleurs.
Ce qui veut dire que quand c'est un mec de droite, c'est un salaud. Quand c'est un mec de gauche, il a peut-être des circonstances atténuantes.
Je crois que c'est Basta. Il y a eu un article, justement, où les filles se plaignent, justement, de la violence dans ces partis de gauche. Et elles disent très clairement que dans leur imaginaire, en tout cas dans leur idée, quelqu'un de gauche ne pouvait pas commettre ce genre de délit. C'est gravissime,
c'est
quoi.
Dans l'imaginaire.
C'est gravissime. Oui, c'est vrai que Olivier Faure, qui se targue d'être le Parti Socialiste responsable et celui qui a, entre guillemets, sauvé la gauche en s'alliant avec la NUPES, je pense qu'il a franchi un cap où plaire à la NUPES et en tout cas s'intégrer dans la NUPES lui fait dire n'importe quoi. Parce que c'est grave. Dire qu'il y a un contexte qu'il faut regarder pour lequel tu peux prendre une gifle.
Ou alors, dans ce cas-là, si tu relativises, parce que j'ai entendu Manuel Bompard de la France Insoumise qui a à peu près les mêmes propos, qui relativise. Mais d'accord, mais dans ce cas, tu fais le pour tout le monde.
Exactement.
Tu n'exiges pas la tête de Darmanin.
C'est
la nuance, elle est pour tout le monde.
Quand tu es un élu de la République, il me semble que tu représentes la France. Et tu représentes. Il y a des actes qui font que. Tu as des droits, tu as des droits qui te vont très bien d'ailleurs, et t'as une exemplarité à avoir, et je veux dire, voilà, mettre une gifle à son épouse, il me semble que pour un élu de la République, c'est pas possible, parce que tu as un exemple, et à un moment, tu n'es plus un exemple, tu t'en vas.
Hier, la France Insoumise a confirmé que Quatennens resterait député France Insoumise et siégerait toujours.
Bah, ils ont surtout confirmé que Mélenchon était un dictateur.
Oui, on l'entendra moins.
Retrait.
Il entendra moins, mais il sera toujours membre
du gouvernement. Sur la rangée de derrière, dans l'émission.
Dans un instant, avez-vous, très franchement, avez-vous la trouille de prendre les transports publics? On a le classement.
Il y a Mélenchon, oui.
On a le classement des villes où l'insécurité a augmenté aujourd'hui. Avez-vous peur de prendre les transports publics? Est-ce qu'il faut beaucoup plus de présence dans les bus, dans les tramways, dans les métros, dans les RER et tout ce que vous voulez? À tout de suite au 32-16.